Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Grillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire économique de la Chine. Lundi, nous avons parcouru les mythiques routes de la soie, artère de la puissance et lieu d'échange des cultures et des techniques. Hier, nous examinions les bouleversements économiques qui ont suivi la chute de la dernière dynastie et l'avènement du maoïsme. Aujourd'hui, c'est le capitalisme chinois que nous allons interroger. À son arrivée au pouvoir en 1978, Deng Xiaoping lance une politique de réforme et d'ouverture qui entraînera un décollage fulgurant de l'économie. Le socialisme de marché s'impose tant et si bien qu'en 2008, la Chine semble mieux résister à la crise financière que les pays occidentaux. Pour autant, la République populaire s'est-elle vraiment convertie à l'économie de marché? Que nous apprend le modèle chinois du capitalisme d'État? Et quelles sont ses limites? Voilà les questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons examiner le capitalisme chinois sous toutes ses coutures en compagnie de Marie-Claire Bergère, historienne, professeure émérite à l'INALCO, auteure de « Chine, le nouveau capitalisme d'État » paru chez Fayard, en compagnie également de Françoise Lemoine, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, et auteur de « L'économie de la Chine » publié à La Découverte. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
À ceux qu'il avait rencontrés, Deng Xiaoping laissait le souvenir d'un petit homme rabougri, assis dans des fauteuils trop vastes pour lui, les doigts tachés de nicotine. Piètre orateur, il demandait toujours que l'on dispose un crachoir à côté de son pupitre. Contrairement à Mao Zedong, il n'avait pas marqué la prose politique d'écrit significatif. Ses calligraphies n'exprimaient aucun tempérament et ses poèmes n'avaient pas d'âme. Les quelques interviews concédées à des journalistes étrangers que j'avais pu lire ne dévoilaient rien qui éclaire sa personnalité. Deng avait brouillé les pistes, ne laissant que des miettes et un récit mythique dicté par le parti à ses futurs biographes. À mes yeux, il restait pourtant la plus fascinante, la plus insaisissable des grandes figures de l'histoire contemporaine chinoise. Il représentait à la fois l'ultime incarnation de la Révolution rouge et le père des réformes qui avait triomphalement lancé son pays dans l'arène du marché global. Comment relier le communiste zélé au réformateur visionnaire? Deng déroutait autant que son pays, puissance communiste phare du néo-capitalisme mondial.
Bonjour Marie-Claire Bergère et Françoise Lemoine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'était le portrait de Deng Xiaoping par le journaliste et écrivain Adrien Gombeau. Un extrait de son livre « Dans les pas du petit timonier » paru en 2013 et lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire pour commencer, Marie-Claire Bergère, cette description de celui que l'on surnommait le petit timonier par opposition au grand timonier Mao Zedong?
Je crois que l'auteur a bien vu le caractère très souple et qui ne se mettait pas en avant de Deng Xiaoping, qui arrivait à résister à tous les tournants, ou presque tous les tournants de la politique maoïste, qui a été quand même un fidèle de Mao, même quand il n'était pas tellement d'accord avec lui, il ne s'est jamais mis en avant pour s'opposer à lui, donc il a survécu à beaucoup de tournants de la politique maoïste. Cependant, dans la révolution culturelle, il a été exilé et persécuté lui aussi.
Il a tout de même critiqué Mao au moment de la politique du bond en avant.
Oui, il n'était pas d'accord, mais il ne s'est pas fait un critique comme Peng Teruai ou d'autres qui se sont mis en avant et qui ont été disgraciés. Il a fait entendre sa critique en mineur, très doucement. Enfin, il ne s'est jamais opposé à Mao. Il a eu raison, ça lui a permis de survivre. Et c'est seulement après la mort de Mao qu'il a pu enfin donner libre cours à son talent et à son génie, on peut dire. Lorsque Mao est mort en 1976, il n'a pas pu faire un retour immédiat, mais il a mis 2 ans pour arriver à revenir au pouvoir. Il y est arrivé en 78 et c'est à partir de 78 qu'il a pu mettre en application ses idées, c'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, la réforme et l'ouverture de la Chine.
Et alors justement, Marie-Claire Bergère, quel est alors le contexte politique, économique dans lequel il met en place cette politique de réforme et d'ouverture à la fin des années 70?
Mais c'est un contexte extrêmement difficile. Le parti est tout puissant, l'économie a quand même été affaiblie par la révolution culturelle, même si elle n'est pas en crise violente, elle fonctionne mal. Et il est urgent de reprendre les choses en main. Et c'est ce qu'il veut faire en introduisant dans le fonctionnement de l'économie quelques éléments empruntés à l'économie de marché, non pas pour changer le régime ni politique ni économique chinois, mais comme remède à des maux du régime existant. Donc il envisage l'introduction d'éléments empruntés au marché simplement comme un adjuvant, une espèce de remède, et pas du tout comme un changement.
Ce qu'il faut bien préciser, François Lemoine, en effet, c'est que ce n'est pas une thérapie de choc, hein, c'est une réforme qui est lente et progressive que met en place Deng Xiaoping.
Oui, absolument. La décision d'introduire les réformes économiques qui est prise en décembre 2018 s'annonce comme une manière d'améliorer un système dont on voit qu'il ne marche pas bien. Et cependant, il y a une décision qui est prise à ce moment-là et qui va se révéler absolument cruciale, qui est la décision de procéder à la décollectivisation, enfin d'autoriser la décollectivisation de l'exploitation agricole. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a 80% de la population chinoise qui travaille dans l'agriculture. Donc, le simple fait de les autoriser à revenir à une exploitation familiale, c'est-à-dire à se défaire progressivement de toutes les structures collectives qui étaient mises en place, les communes populaires, les brigades, auxquelles s'ajoute une augmentation des prix d'achat des produits agricoles, tout ça, ça va avoir un effet très dynamisant sur l'économie chinoise, qui va connaître son premier bond économique en avant, si on peut dire.
Un effet dynamisant dont nous parle l'économiste Michel Alieta, qui revient sur les succès de la réforme agraire. On l'écoute.
Il y a une hausse de productivité qui est sous-jacente. Pour la révéler, il faut permettre des marchés. Donc on permet aux paysans de vendre sur des marchés qui vont se constituer en même temps, le surplus de ce qu'ils ne doivent pas livrer à l'État du point de vue, évidemment, de leur quota de planifier. Ceci crée immédiatement une hausse des revenus des paysans, donc légitime extraordinairement la réforme, puisque c'est la masse de la société qui en profite le plus. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, les paysans sont incités à accroître la productivité, ça fait baisser les prix de marché progressivement, et quand les prix de marché ont convergé vers les prix planifiés, ben on peut enlever la planification.
La réforme agraire qui va apporter en effet rapidement une certaine prospérité aux campagnes. Dans l'industrie, en revanche, Françoise Lemoine, les progrès mettent plus de temps à apparaître?
Oui, c'est assez lent dans la mesure où, à la fin de l'époque maoïste, la majeure partie, enfin la quasi-totalité de l'industrie, le fait de grandes entreprises d'État qui sont plus ou moins efficaces et plutôt moins. Et ce qui va se passer, c'est une réforme très progressive des entreprises d'État. D'une part, on va autoriser les petites entreprises privées à se développer de manière très très progressive. Il s'agit seulement de petites entreprises privées.
C'est seulement à partir des années 80 qu'elles peuvent conserver leurs bénéfices, par exemple.
Voilà, et puis on va autoriser les entreprises d'État, qui sont à ce moment-là majoritaires, à conserver une partie de leurs bénéfices, c'est-à-dire à introduire un petit peu de mécanisme de marché de la même façon qu'on l'a fait dans l'agriculture, puisque l'agriculture, les succès agricoles incitent à penser qu'on peut les reproduire dans le domaine industriel. Et donc les années 80 sont marquées par une libéralisation progressive des prix de l'agriculture dans le domaine industriel aussi, et une tendance à l'amorce d'un secteur privé un peu autonome.
Donc dans un premier temps, Marie-Claire Bergère, l'État ne se retire que partiellement. On a une économie mixte avec à la fois une sphère d'économie planifiée et une sphère d'économie marchande.
Oui, on arrive à une formule d'économie mixte assez désordonnée, il faut bien le dire, et assez chaotique. Il faut voir qu'à l'époque, Deng Xiaoping fait ses réformes dans un contexte politique extrêmement difficile où la plupart des dirigeants du parti sont très hostiles à l'idée d'introduire de l'économie de marché. Ils sont très conservateurs. Donc il faut qu'il ménage beaucoup de factions à l'intérieur du parti et il ne peut avancer qu'avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire un peu en zigzag. Et en ce qui concerne la réforme agraire, elle s'est appliquée sans difficulté parce que, comme vient de l'expliquer M. Alieta, les paysans y trouvaient leurs bénéfices, mais aussi parce qu'elle avait quasiment commencé de façon spontanée dans un certain nombre de provinces avant que le parti, en décembre 1978, décide de l'approuver et de la répandre, de la faire diffuser dans le reste de la Chine. Mais il y avait déjà des provinces où il y avait eu des mouvements de décollectivisation. Donc, il était porté par la population, là. En ce qui concerne la réforme des entreprises, c'était beaucoup plus délicat parce que les réformes, les entreprises, il n'y avait pas d'entreprise privée, ça n'existait pas. Tout était entreprise publique depuis la nationalisation des entreprises ou collective, mais il n'y avait pas d'élan porteur pour Deng Xiaoping pour qu'il puisse s'appuyer là-dessus. Donc,
il a fallu le créer, cet élan.
Il a dû davantage le créer. Il l'a créé avec beaucoup de précautions. Dans une première phase, c'était surtout redonner aux entreprises d'État qui étaient un fardeau terrible pour l'État, puisqu'elles étaient complètement subventionnées, alimentées par des fonds d'État, leur redonner un peu d'autonomie de gestion en leur faisant reluire le fait qu'elles pouvaient garder une partie de leurs gains, etc., qu'elles n'étaient plus obligées de tout retransmettre à l'État. Donc au début, c'était très limité, c'était simplement autonomie.
Oui, Françoise Lemoine. Je crois que ce qui est important, ce qu'on a dit, c'est que dans cette première phase des réformes, dans les années 80, les réformes sont expérimentales. On les expérimente et on voit ce qui marche pas. Et ensuite, en fonction des résultats qu'on voit, on va décider dans les années 90 de les étendre à l'ensemble du secteur industriel.
Ce qui est expérimental également, c'est l'autre grand volet de ces réformes, c'est l'ouverture de la Chine aux entreprises et aux capitaux étrangers. Dans un premier temps, c'est seulement certaines régions qui sont concernées, Marie-Claire Bergère.
Juste un mot pour revenir sur ce que disait Françoise Lemoine, c'est que le résultat de ces essais partiels, de ces expérimentations, ça a été un énorme désordre. Rien ne fonctionnait bien, ni l'économie de marché, ce qui en existait, ni l'économie publique telle qu'elle existait avant. C'était poreux, ça se chevauchait, et les observateurs étrangers disaient que vraiment la Chine, sans aucun plan, sans aucun guide théorique, de façon absolument pragmatique, avait réussi à créer un désordre systémique absolument sans précédent. Alors, en ce qui concerne l'ouverture de la Chine, oui, elle date de la même époque, de 1979, où on décrète l'ouverture de zones économiques spéciales. Là aussi, on avance avec précaution, c'est-à-dire que ces zones sont à la périphérie de la Chine, elles sont tout à fait dans le sud. Si elles échouent, ce ne sera pas un très gros danger pour le pouvoir central. Et elles se sont situées dans le Guangdong, donc la région de Canton, et puis dans le Fujian, il y a comme ça 14 zones économiques spéciales où les étrangers ont le droit d'importer, de créer des entreprises et d'importer leurs capitaux et on espère leurs techniques.
Et c'est notamment Shenzhen qui est créé en 1980 et qui va devenir une gigantesque métropole.
Oui, Shenzhen, moi je l'ai connu, c'était une bourgade. C'était là que l'on quittait la Chine populaire pour aller à Hong Kong. On passait sur un pont qui n'appartenait ni à l'une ni à l'autre et où on trimballait ses valises parce que là, se rompait la chaîne entre l'intérieur et l'extérieur de la Chine.
François Lemoine. Je crois que ces zones économiques spéciales, Shenzhen, ça a été très long à démarrer parce qu'il n'y avait rien. Donc l'État a dû faire des investissements énormes d'infrastructures, de transport, de routes, d'adduction d'eau. Et dans les années 80, on ne peut pas dire que c'était des résultats absolument flamboyants. C'était des zones où effectivement les entreprises, surtout de Hong Kong pour Shenzhen et de Taïwan qui est en face du Fujian, qui venaient investir. C'était surtout des investissements de Chinois d'outre-mer. Et elles ont mis du temps, effectivement, à diffuser et à montrer que c'était effectivement une porte d'entrée efficace sur la Chine.
Marie-Claire Bergère.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit là se dénicher une stratégie qui sera celle de tous les dirigeants chinois par la suite. C'est-à-dire qu'ils créent les conditions du développement. Il y a vraiment un aspect volontariste. Moi, je me rappelle avoir visité Zhuhai, qui est près de Shenzhen, c'est très près de Canton aussi. On avait construit une ville qui, lorsque j'y visitais, était totalement déserte. Il n'y avait rien. Et je me suis dit, mais comment vont-ils faire pour la faire se développer? Et peu à peu, le dynamisme social et économique est venu s'ancrer sur ces
Et parallèlement à ce phénomène, on parle de plus en plus, on théorise de plus en plus cette économie qui est en train d'advenir. On parle au début des années 80 du stade initial du socialisme. Et est-ce que c'est le fait que ces résultats, comme vous le disiez, Françoise Lemoine, ne sont pas flamboyants? Est-ce que c'est cela qui fait que la mise en place de ces réformes ne se fait pas sans heurts à la fin des années 80? Elle se heurte à une vive opposition à l'intérieur du parti, Marie-Claire Berger.
Oui, je crois qu'il stade initial du socialisme, c'est un de ces slogans dont la direction du parti se sert pour faire passer ses politiques. Stade initial du socialisme, c'était rassurant aux yeux des conservateurs. Donc on a baptisé ces éléments d'économie de marché qu'on a importés de ce mot stade initial du socialisme. C'est bien le socialisme avait pris l'économie chinoise à une époque où elle était très peu développée, où les progrès qui avaient été assurés ailleurs par le capitalisme n'avaient pas été accomplis. Donc c'était au socialisme d'accomplir ses progrès et de faire cette étape de démarrage.
Françoise Lemoine.
Oui, absolument. Et Marie-Claire Berger évoquait le désordre très grand amené par ces différents modes de fonctionnement, parce que vous aviez à cette époque-là des prix pour un même produit, des prix libres qui étaient en pleine expansion, des prix d'État qui étaient relativement bas, donc des trafics entre les circuits d'État et les circuits privés, beaucoup d'inflation, et c'est ce qui va amener quand même à la crise de 1989, puisque la population souffre de l'inflation et le caractère expérimental des réformes apparaît là parce qu'on a vraiment eu peur à la suite de la crise de 1989 qu'il y ait un retour en arrière. Les réformes n'étaient pas, j'ai l'impression, assurées à ce moment-là.
Les manifestations de Tiananmen en 89 qui interviennent après justement l'interruption du processus de réforme par celui qui est alors Premier ministre, Li Peng. Pour reprendre les termes de Françoise Lemoine, ces réformes étaient menacées, Marie-Claire Berger, à la fin des années 80.
Après 89, après la répression des manifestations, elles ont été non seulement menacées, mais la nouvelle direction où prédominaient les factions les plus conservatrices avait décidé de revenir sur ces réformes, de les supprimer. Et Deng Xiaoping n'a pas manifesté tout de suite son opposition. Il a laissé ce courant ultra-conservateur sans se lever contre lui jusqu'en 92. Il a attendu donc 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est seulement en 92 qu'il a repris l'initiative lors d'un voyage très connu dans le Sud où il est allé vanter l'économie de marché, enfin l'appel à l'économie de marché et assurer la relance des réformes. Mais de 89 à 92, le problème s'est vraiment posé de savoir si la Chine allait tout simplement abolir les réformes qui avaient été faites et revenir vers l'ancien régime.
Et à partir de 92, c'est là que Deng Xiaoping lance une vaste entreprise de privatisation.
C'est-à-dire qu'il a relancé les réformes. Moi, je me souviens être allé en septembre 89 en Chine et dans le Guangdong. On sentait quand même que dans le Guangdong, il y aurait eu une résistance très forte à un retour en arrière sur la décollectivisation agricole et sur l'ouverture. Donc je pense que c'est pas par hasard que Deng Xiaoping est allé dans le Guangdong relancer le processus de réforme. Il y avait dans certaines provinces en tout cas des intérêts acquis aux réformes qui ont joué dans ce sens et qui ont permis effectivement de relancer la transformation de l'économie avec dans les années 90 la privatisation d'un certain nombre d'entreprises d'État, c'est-à-dire que les petites entreprises d'État ont été privatisées, c'est-à-dire vendues souvent au cadre dirigeant de l'entreprise, et les grandes entreprises d'État ont entrepris de les transformer en société, de manière à introduire un peu de rationalité dans leur gestion.
Ça, c'est intéressant. L'État veut garder une position dominante dans un nombre limité de secteurs stratégiques, voilà, plutôt dans les grandes industries.
Dans les grandes entreprises qui ont un rôle important dans les secteurs stratégiques, comme l'énergie, les communications, les transports, les banques, surtout, l'État garde la haute main. C'est-à-dire qu'il laisse le marché et les entreprises privées se développer dans la majeure partie des secteurs, et dans les secteurs qui ont une importance stratégique, il garde toute sa capacité d'intervention, il garde la propriété, et c'est vrai surtout du système bancaire. À travers un système bancaire qui reste totalement dans les mains de l'État, l'État garde bien sûr la haute main sur le financement de l'ensemble de l'économie.
Et il y a une autre étape qui est essentielle, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC en décembre 2001. Le pays va alors s'engager à respecter un certain nombre de règles internationales, Marie-Claire Berger.
Oui, avant d'aborder cette étape qui est absolument décisive, je voudrais simplement compléter un peu ce qui vient d'être dit sur le mouvement de privatisation. Parallèlement, il y a eu un mouvement très important de construction des institutions économiques, parce que même dans une économie de marché, il y a des institutions qui en Chine n'existaient pas. Par exemple, la Banque de Chine a été transformée en banque centrale, chargée de surveiller la monnaie, etc. Et elle n'a plus servi de banque de dépôt, ni rien, ni de crédit. On a créé des banques spécialisées pour l'agriculture, le commerce et l'industrie, etc. Donc il y a eu toute une réorganisation du système bancaire, et puis il y a eu diverses institutions qui ont été créées pour suivre ce mouvement. Et les ministères techniques ont perdu leurs prérogatives, parce que dans l'économie de commande, les ministères techniques jouent un rôle très important. Là, ils ont perdu leurs compétences, mais tout cela a été remplacé par d'autres institutions. On a créé des bourses, etc. Donc il y a eu un effort de construction institutionnelle qui était très important et parallèle à la privatisation.
Et qui a été Progressif lui aussi,
mais oui, enfin quelques années, ça a quand même été assez rapide. Là, on va beaucoup plus franchement, surtout à partir de 2001-2002, quand la Chine entre à l'OMC, là on a un mouvement qui est beaucoup plus franc et plus radical. À partir du moment où elle est entrée à l'OMC, c'est-à-dire fin 2001, début 2002, l'opposition à l'intérieur du parti a disparu, l'opposition aux réformes a disparu. Alors, on discutait quelle réforme, quel genre de réforme, mais il n'était plus question de revenir en arrière. L'idée de la réforme a été acceptée par l'ensemble du parti. Donc, les dirigeants ont eu les coudées beaucoup plus franches pour mener à bien ces réformes. Restait à savoir quelle réforme. Alors l'OMC, oui, la Chine a pris des tas d'engagements pour aligner ses pratiques sur les pratiques internationales en termes de tarifs, abaisser ses tarifs, abaisser les barrières institutionnelles aussi.
Beaucoup de normes juridiques.
Refaire un certain nombre de textes de loi permettant d'accorder les conditions de travail en Chine, je veux dire, pour les étrangers travaillant en Chine et pour les étrangers de l'étranger. Parce qu'en fait, en ce qui concerne la législation interne à la Chine, ça n'a pas eu beaucoup de portée, mais en ce qui concerne la législation chinoise concernant les échanges extérieurs, ça a eu beaucoup d'importance.
La protection des travailleurs chinois va arriver beaucoup plus tard.
Oh oui, bien sûr.
Françoise Lemoine, c'est à partir de cette date, en tout cas, que l'économie chinoise va réellement faire un bond avec des taux de croissance qui dépassent les 10%.
Oui, c'est-à-dire que l'adhésion à l'OMC en 2001 est elle aussi le résultat d'un long processus, hein, parce qu'il y a eu 10 ans de négociations avant que la Chine soit considérée par l'OMC comme prenant des engagements compatibles avec l'OMC. Donc c'est un long processus et on voit bien qu'il n'est pas terminé, puisque elle est accusée très souvent par l'OMC d'enfreindre les règles. Alors ce qui se passe à partir de 2001, donc la Chine qui était déjà avant très ouverte, là les acteurs étrangers considèrent que du fait de l'accession de la Chine à l'OMC, c'est devenu un pays où on peut investir massivement. Et donc dans cette décennie qui est une décennie où la globalisation se déploie, la Chine surfe sur ce mouvement de globalisation économique et elle devient véritablement un des grands acteurs de cette mondialisation, au terme de laquelle, au terme de cette décennie, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de produits manufacturés. C'est un lieu où toutes les multinationales sont présentes, que ce soit pour desservir le marché intérieur chinois ou au contraire pour exporter des productions en bénéficiant du faible coût de la main-d'œuvre et de la qualification de la main-d'œuvre le reste du monde. Donc c'est vraiment la Chine est à ce moment-là au cœur de toutes les chaînes internationales de production qui se mettent en place, notamment dans l'électronique. Et naturellement, cette expansion des échanges extérieurs favorise la croissance qui atteint des taux effectivement qui sont peut-être pas très très précis, il faut peut-être pas les prendre au pied de la lettre, mais des taux
la
de croissance
des
qui sont
chiffres, par
qui
ailleurs,
sont effectivement incontestablement c'est une très forte croissance économique.
Marie-Claire Bergère, on voit une vraie réussite économique, mais alors pour autant, et c'est la question qu'on va se poser tout au long de cette seconde partie de l'émission, est-ce qu'on peut parler d'une libéralisation totale? On se rend compte peu à peu que la fin de l'économie planifiée ne signifie pas la fin des interventions de l'État, contrairement à ce qu'on pouvait penser.
Non, d'abord, il reste quand même, comme l'a dit Françoise Lemoine, un certain nombre de très grandes entreprises qui sont sous la gestion directe de l'État central, celles qui n'ont pas été privatisées. L'État, parmi toutes les institutions qui ont été créées à cette époque, il y a eu la commission de gestion des actifs de l'État, qui a la main, qui est chargée de gérer, de superviser la gestion. Elle ne gère pas directement, mais elle supervise la gestion des grandes entreprises dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, ce nombre de très grandes entreprises, il oscille entre aux ordres de 120 très grandes entreprises qui sont directement supervisées par la gestion des actifs de l'État. Et c'est bon, là il n'y a pas de problème. Ils fonctionnent même en circuit fermé. Ces très grandes entreprises qui font des bénéfices ne remettent que très peu d'argent au titre de l'impôt et du prélèvement fiscal. L'essentiel de l'argent qu'elles remettent ne va pas à l'État, enfin ne va pas directement aux caisses du Trésor, mais va à cette commission des actifs de l'État qui en dispose pour subventionner, aider les grandes entreprises, une espèce de budget particulier.
On va revenir sur ces entreprises publiques qui sont en effet des outils de la puissance chinoise. Mais d'abord, peut-être qu'il faut expliquer que c'est notamment à la faveur du plan de relance décidé en 2008 que l'on se rend compte qu'il y a peut-être un retour de l'État, un retour du dirigisme économique en Chine. C'est la fameuse formule « le public avance, le privé recule », Françoise Lemoine.
C'est-à-dire que la Chine a été devenue très dépendante des exportations avec l'expansion de ses marchés extérieurs. Et en 2008-2009, la crise financière globale se traduit par un effondrement des marchés extérieurs de la Chine, puisque les grandes économies occidentales sont frappées par la crise, la demande diminue. Donc les exportations chinoises, du fait de cet effondrement de la demande, cessent d'être le moteur de la croissance. Et l'État, pour suppléer cette demande extérieure, qui n'existe plus, met en place un grand plan de relance. De relance par des investissements qui sont très largement financés par des banques d'État et qui sont véritablement un renouveau de l'action de l'État dans l'économie sur le plan macroéconomique. Et par ailleurs, je crois qu'il y a une réappréciation aussi par les dirigeants chinois du fait qu'ils se rendent bien compte à cette occasion que une croissance essentiellement tirée par l'exportation rend la Chine très vulnérable à son environnement international. Donc il va y avoir parallèlement une réorientation, un début de réorientation, de rééquilibrage de la croissance vers le marché intérieur chinois, vers les consommateurs chinois, vers l'investissement interne, et il y a donc ce double mouvement macroéconomique et puis de rééquilibrage, et tout ça s'associe à une relance de la politique industrielle chinoise, comme Marie-Claire Berger le mentionnait tout à l'heure, une volonté de moderniser, d'accélérer le rattrapage technologique de la Chine.
C'est cet interventionnisme étatique dans l'économie qui explique que la Chine a peut-être moins souffert que les autres pays de la crise financière de 2008.
Elle en a beaucoup moins souffert. Pratiquement, elle s'est remise en 2 ans. Lorsque les usines qui travaillaient pour l'exportation ont fermé en masse, la main-d'œuvre qui travaillait dans ces usines est repartie vers les campagnes. Donc, il n'y a pas eu de crise sociale trop violente, dans la mesure où ces ouvriers venus en masse, 300 millions en quelques années, qui sont venus en masse des campagnes pour travailler dans les usines qui venaient de s'ouvrir, essentiellement dans les zones économiques qui étaient ouvertes, les zones spéciales, les zones de la côte dorée, comme on dit, qui étaient proches donc des zones ouvertes. Ces ouvriers sont repartis à la campagne. Mais très vite, ils sont revenus vers les villes, parce que les investissements massifs, c'était plus de 550 milliards, aux environs de 550 milliards de dollars équivalents, ont été investis à ce moment-là. Et certains économistes disent qu'en fait, c'est pas 500 milliards de dollars, c'est 1500 milliards de dollars qui auraient... Enfin, vous savez, les chiffres en Chine, oui, ils flottent. Mais enfin, c'est énorme. Donc, ils ont été réinvestis dans ces infrastructures, essentiellement, ce qui a ouvert beaucoup de perspectives pour la suite.
On tient là peut-être une différence de la Chine avec d'autres économies. C'est peut-être ce volontarisme politique qui interfère avec les signaux du marché, notamment sur la politique monétaire. Françoise Lemoine, il y a une volonté, une capacité de l'État à interférer peut-être plus grande en Chine.
Certainement. Une volonté et une capacité. C'est vrai que dans les pays occidentaux, il y a certaines économies qui ont mis en place des plans de relance. Mais enfin, à l'échelle du continent chinois, le plan de relance a été vraiment gigantesque, avec effectivement aussi des retombées qui sont préoccupantes, puisque ces investissements qui ont été financés par des banques d'État n'ont pas tous été rentables. Donc, il y a des situations d'endettement des entreprises et donc une fragilisation des banques qui ont prêté à des acteurs qui n'étaient pas tous solvables sous la pression de l'État. Les banques chinoises sont effectivement sous la directive des autorités centrales. Il est certain qu'en Chine, le marché et les capacités d'intervention de l'État sont beaucoup plus fortes qu'ailleurs, et l'économie de marché est au service de la politique économique et des ambitions économiques des dirigeants chinois, c'est certain.
Et puis c'est peut-être la relation que le pouvoir entretient avec les entreprises publiques qui illustre le mieux cette influence persistante de l'État dans l'économie. On en parle dans un instant.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Communist China du groupe britannique Japan. Retour à notre discussion sur les ambiguïtés du socialisme de marché en Chine avec Marie-Claire Bergère et Françoise Lemoine. Alors on l'a dit, on assiste depuis 2008 à une expansion du secteur public. Écoutons d'abord Jean-François Di Meglio, le président d'Asia Centre. Il s'exprimait sur France Inter le 11 juillet 2012.
On croyait les SOE, les state-owned enterprises, donc les entreprises d'État, on croyait qu'elles allaient disparaître, qu'elles allaient s'effacer dans le modèle chinois. On s'est rendu compte qu'effectivement, jusqu'à il y a 3-4 ans, leur importance dans le PNB décroissait, elles étaient un peu dégraissées. Et depuis 3-4 ans, en particulier à cause du plan de relance, mais pas uniquement, eh bien elles reprennent de l'importance, elles redeviennent performantes et elles investissent d'ailleurs à l'étranger. Donc c'est un modèle qui va évoluer, donc le grand cadre. Il va falloir qu'il évolue, mais ce cadre lui-même, c'est un parallélogramme, on va dire. C'est-à-dire que c'est un cadre qui est capable de se déformer et qui est très pragmatique. On a toujours l'impression que la catastrophe va arriver, et soit parce que on met un petit peu la poussière sous le tapis, soit parce qu'effectivement on ajuste la situation, bah cette catastrophe, elle n'arrive pas. Il y a beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'expérience aussi, en tout cas jusqu'à présent.
Ces entreprises publiques, Marie-Claire Bergère, dont certains pouvaient penser qu'elles allaient disparaître, sont finalement plutôt montées en puissance, en particulier depuis 2008.
Oui, et puis je ne suis pas sûr que la perception que ces entreprises allaient disparaître était fondée. C'était une perception qu'on avait en Occident, mais la perception que l'Occident avait de l'économie chinoise était très biaisée à l'époque. Il y avait une espèce de foi, enfin ce n'était même pas d'analyse, du moins l'analyse était secondaire par rapport à la foi, dans l'idée que la Chine, ayant adopté et adoptant de plus en plus des éléments de l'économie de marché, allait automatiquement évoluer aussi sur le plan politique et devenir une démocratie, et que par conséquent, il fallait encourager cette évolution de l'économie de marché. La fable un peu ridicule disait que quand un Chinois aurait pris l'habitude de choisir sa marque de dentifrice, il voudrait ensuite choisir ses dirigeants et son parti politique. Or, tout cela, c'était l'expression d'un néolibéralisme assez naïf, je pense, et je ne pense pas que les entreprises publiques aient été en grande difficulté avant le plan de relance. Ceci dit, il est sûr que le plan de relance les a beaucoup renforcés et a multiplié le poids de l'État qui était resté quand même très important.
Françoise Lemoine.
Oui, je pense qu'aussi, à côté de ces entreprises publiques qui, comme Marie-Claire Bergère le disait, sont une centaine, un peu plus d'une centaine, et gérées directement par la Commission des affaires d'administration des actifs d'État, il y a tout énormément d'entreprises qui sont des sociétés à capital qui sont cotées en bourse, où il y a les sociétés anonymes, enfin il y a toute une masse de sociétés où l'État a une partie du capital, minoritaire ou majoritaire, et qui crée tout un secteur qui n'est ni complètement public, ni complètement privé, mais où l'État garde une forte capacité d'influence à travers sa présence dans le capital, à travers aussi les cellules du Parti communiste qui existent dans la quasi-totalité des entreprises, y compris d'ailleurs les entreprises purement privées. Donc je crois que il n'y a pas en Chine une distinction aussi nette qu'on voudrait le faire croire souvent entre le secteur d'État et le secteur privé, mais il y a toute une... La masse des entreprises, ce sont des entreprises qui sont souvent où le statut de propriété, la détention du capital est assez ambiguë ou en tout cas assez flou.
On va voir les conséquences effectivement de ces frontières qui peuvent être très floues effectivement entre le privé et le public, mais d'abord comment est-ce qu'on peut interpréter cette expansion du secteur public? Toute la question c'est, est-ce qu'il s'agit d'une réponse ponctuelle à la crise ou d'un changement durable? Et là-dessus, les économistes sont assez partagés, Marie-Claire Bergère.
Je crois que nous avons... J'approuve entièrement ce que vient de dire Françoise Lemoine. C'est-à-dire que nous avons, nous, des catégories très distinctes et qui s'opposent. Ce qui est blanc et n'est pas noir, ce qui est noir n'est pas blanc. En Chine, ça ne se fonctionne pas comme ça. Tout est gris. L'influence de l'État, elle s'exerce de mille manières par ses interventions de façon générale sur la fixation du cours du yuan ou la fixation des taux d'intérêt, etc. Et elle s'exerce très directement dans les entreprises privées par la nomination très souvent la cellule du parti qui agit dans les entreprises privées a au moins autant de pouvoir, sinon beaucoup plus, que le conseil d'administration. Et ces réunions, en général, précèdent celles du conseil d'administration. Donc, je ne dirais pas que le conseil d'administration est aux ordres de la cellule, mais il écoute ce qu'ont à dire les membres communistes. Donc, et dans les entreprises d'État, il ne faut pas croire que tout obéit au doigt et à l'œil aux représentants de l'État. Elles ont leur autonomie, elles sont supposées faire des bénéfices. Si elles ne sont pas bénéficiaires, elles peuvent tomber de la catégorie privilégiée à une catégorie moins privilégiée qui ne sera pas soutenue de la même manière par l'État. Donc tout cela est très fluctuant et entreprises privées, elles sont d'autant plus sous l'influence, je ne peux pas dire le contrôle, mais l'influence de l'État, que leurs principaux dirigeants pour assurer la prospérité de l'entreprise, étant donné quand même le relatif flou juridique qui entoure le fonctionnement des entreprises chinoises privées, les dirigeants sont obligés d'entretenir de bonnes relations avec les dirigeants politiques. Donc les liens sont très étroits avec les dirigeants politiques.
Vous avez dit beaucoup de choses, Marie-Claire Berger. On va revenir sur un certain nombre d'éléments. Est-ce que je voudrais demander à Françoise Lemoine, c'est sur ces entreprises publiques, le fait qu'elles bénéficient autant de quantités d'avantages fournis par l'État, ça fausse la concurrence avec le secteur privé. Il y a une équivalence de fait entre ce qui est le secteur privé et ce qui est le secteur public, même si on comprend bien que c'est plus compliqué que ça. Et en réalité, on voit que l'État privilégie véritablement les entreprises publiques.
Oui, enfin, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les entreprises d'État, pour autant qu'on puisse les finir, cet agrégat, est sans doute bénéficiaire d'une proportion plus importante qui ne serait liée à son importance. Par exemple, des crédits bancaires. On voit que la majorité des crédits, une grande partie des crédits bancaires va au secteur public. Pour autant, je dirais pas qu'il y a une discrimination systématique entre les entreprises privées et les entreprises d'État, comme le disait Marie-Claire Berger. Tout ça, il y a des entreprises à capital d'État ou plus ou moins important. Il y a de la concurrence quand même en Chine, et il y a de la concurrence dans les secteurs où il y a à la fois des entreprises d'État et des entreprises privées. Il y a une véritable concurrence. Il n'y a pas, je crois, il peut y avoir des distorsions, mais je pense pas qu'elles s'exercent systématiquement à l'encontre du secteur privé. Elles peuvent s'exercer, par exemple, à l'encontre, et je pense que c'est peut-être ça ce à quoi vous faites allusion, à l'encontre d'entreprises étrangères. Je pense que les entreprises à capitaux étrangers qui sont situées en Chine ont souvent l'impression d'être discriminées par rapport aux entreprises d'État ou aux entreprises chinoises, peut-être. Et là, c'est peut-être tout à fait justifié, cette impression d'être discriminée. Parce que je pense qu'il faut, un des éléments de renforcement du rôle de l'État depuis les années 2000, enfin dans le cours des années 2000, c'est aussi le renforcement de la politique industrielle, et Marie-Claire Berger parlait tout à l'heure de ce rapport sur Made in China 2025, qui est véritablement un rapport central, qui promeut une politique industrielle pour que la Chine, dans les secteurs d'avant-garde, réduisent son retard par rapport au reste du monde, notamment par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays développés. Et là, ça se traduit véritablement par des subventions, par des avantages fiscaux aux entreprises qui sont dans des secteurs tels que les nouvelles technologies, les énergies vertes. Et là, il y a véritablement une politique industrielle qui favorise les entreprises de ce secteur. D'abord, c'est bien sûr les entreprises d'État, si elles existent dans ce secteur, mais aussi les entreprises privées, et qui favorisent l'acquisition de technologies, qui encouragent les acquisitions par ces entreprises à l'étranger, de manière à accélérer ce rattrapage technologique. C'est-à-dire que si la Chine a, dans un premier temps, compté sur les entreprises étrangères qui investissaient en Chine pour rattraper son retard, maintenant, elle compte davantage sur les investissements de ces entreprises à l'étranger et leurs acquisitions pour réduire son retard technologique qui existe encore.
Alors, vous dites une concurrence qui n'est pas vraiment faussée, Françoise Lemoine, mais ça pose en tout cas la question de l'État, du secteur privé ou de ce qu'on peut appeler le secteur privé, qu'on peut aussi qualifier peut-être de secteur non public, ce serait peut-être plus juste. Le privé qui offre d'autres possibilités aux travailleurs, comme nous l'explique ce jeune Chinois passé du secteur public au monde de l'assurance.
Je vais vous expliquer la transition par mon parcours. L'emploi que j'avais en 1996, c'était dans une agence de recherche. C'était de la fonction publique. Si je ne faisais pas d'erreur, j'aurais ce métier toute ma vie. Je ne serais jamais viré, j'aurais la sécurité de l'emploi. Parce que dans une société d'État, je sens que la scène n'était pas assez grande pour moi. Mais pour autant, dans une société privée, j'ai l'impression que j'aurais plus de possibilités pour tout mon potentiel, de mes capacités. Et par rapport à mon nouveau métier, j'en suis confiant parce que je sais, si je travaille beaucoup, je gagnerai beaucoup. Et c'est pour ça que je vais faire au mieux mon travail.
Voilà ce qui montre peut-être la place prise par le secteur privé en Chine, Marie-Claire Bergère, c'est le fait qu'il attire de plus en plus de travailleurs chinois.
Ah ben, il en a attiré beaucoup au moment des privatisations. Ce que décrit ce monsieur, c'est ce qu'on appelait se jeter à la mer, siahai. On se jetait à la mer, c'est-à-dire on se jetait dans la mer de la concurrence dans l'espoir de gagner beaucoup plus d'argent. Et beaucoup, beaucoup de gens, surtout jeunes et formés, compétents, ont opéré leur siahai, se sont jetés à la mer. Ceci dit, je suis bien d'accord avec ce que Françoise vient de dire sur l'absence de discrimination. Je crois quand même qu'il y a un point qu'elle a mentionné d'ailleurs, qui est le problème des crédits bancaires, qui vont tous quand même en très grande majorité, comme les banques sont des banques officielles, soumises aux pressions directes de l'État. Je crois que vraiment l'énorme majorité des crédits bancaires vont aux entreprises publiques.
Les entreprises privées ont vraiment du mal à se financer.
Les entreprises privées à se tourner vers des formes de financement non officielles, pas toujours clandestins, mais non officielles, qui sont plus fragiles, moins contrôlées, moins stables et plus dangereuses.
Et alors, vous parliez tout à l'heure du contrôle ou de l'influence très forte qui pouvait exister même dans les entreprises privées de la part de l'État. C'est aussi le cas des entreprises sino-étrangères, non publiques. Les autorités ont parfois aussi un droit de regard sur ces entreprises, Marie-Claire Bergère.
Ah ben, les entreprises étrangères sont en général, enfin presque toujours jusqu'à maintenant, des co-entreprises. Donc les étrangers peuvent s'associer soit à des entreprises privées, soit, ce qu'ils font très souvent, à des entreprises publiques, en particulier des entreprises publiques provinciales, locales, qui amènent les capitaux, leur part de capitaux. En général, dans ces entreprises, les capitaux chinois restent majoritaires. Donc, on a des entreprises étrangères avec des fonds publics majoritaires dans le capital. Donc, vous voyez la complexité des solutions. Mais une des choses que les Chinois ont beaucoup reproché, donc que les étrangers ont beaucoup reproché aux Chinois, et qu'ils continuent d'ailleurs, enfin, ce que les Américains en ce moment reprochent très violemment aux Chinois, c'est d'obliger les entreprises étrangères qui veulent faire des co-entreprises ou qui veulent entrer tout simplement sur le marché chinois à faire des co-entreprises. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas y rentrer seules, sans un partenaire chinois.
Ce qui implique des transferts de technologie.
Ou privé. Et pour cela, elles sont obligées de transférer de la technologie à ce partenaire. Et c'est comme ça qu'ont été transférées de très très nombreuses technologies, y compris les technologies de pointe, de Airbus ou des TGV ou d'autres secteurs en pointe. C'est comme ça que les transferts de technologie ont lieu par le passé. Maintenant, il est vrai que ça prend d'autres formes.
Et maintenant, l'innovation a pris peut-être plus d'importance en Chine. Mais alors, Françoise Lemoine, peut-être que ce qui caractérise le secteur privé, c'est une certaine absence de règles. Certains parlent de capitalisme sauvage. C'est l'une des différences qu'on observe avec le secteur public, même si gardons toujours évidemment des nuances sur les difficultés à différencier ces deux secteurs.
Oui, peut-être encore qu'il y a de plus en plus la construction d'un système de protection sociale. Il y a en principe, les entreprises privées doivent faire des contrats de travail formels avec leurs ouvriers, ce qui n'était pas le cas autrefois. Beaucoup rechignent. Enfin, il y a la construction quand même d'un cadre légal tel qu'il peut exister dans une véritable économie de marché qui est en cours. Mais il y a aussi sans doute beaucoup de corruption et beaucoup de passe-droits qui font qu'il y a l'embauche de contrats d'ouvriers sans protection sociale, etc.
Est-ce que les entreprises non publiques, par exemple, bénéficient de la même protection juridique que des entreprises publiques? Est-ce qu'il n'y a pas une différence sur ce point, Marie-Claire Bergère?
Je ne sais pas si les entreprises publiques sont très bien protégées, mais les entreprises non publiques sont très mal protégées. Et elles ont beaucoup de mal à faire valoir leurs droits devant les tribunaux. D'ailleurs, en général, elles n'essayent pas, parce que c'est coûteux, c'est risqué, en général inefficace. Donc, mais là, il s'agit non pas des grandes entreprises, mais des PME ou des petites entreprises. Elles, en général, elles se financent par leurs propres circuits, qui sont souvent des réseaux familiaux ou autres, parce que tout cet essor de l'économie privée en Chine a quand même bénéficié d'une tradition entrepreneuriale chinoise historique et très très ancrée dans la population, en particulier les populations du sud ou du centre Chine. C'était des entrepreneurs depuis des siècles et des siècles. Donc ils essayent de développer leur entreprise le plus possible à l'écart de l'État, pour ne pas être en butte aux tracasseries et parfois même ils limitent la taille de leur entreprise de manière à n'être pas trop visible ou voyant, que les autorités ne s'aperçoivent pas trop de leur existence et n'en viennent pas à jalouser leur succès. Et étant à l'écart de l'État, ils essayent de régler non seulement leurs problèmes financiers par leur propre circuit, mais leurs problèmes de créances non remboursées, toutes ces choses-là, eux-mêmes. Le problème est que ces systèmes, ces réseaux, parentèles ou autres, fonctionnent sur la confiance et très souvent sans documents. Ce sont vraiment la parole donnée, etc., qui fonctionnent comme dans le temps. Et que la confiance vient à être trahie, si la créance n'est pas remboursée, il ne reste plus qu'à passer aux actes, c'est-à-dire kidnapping, violence physique. Et ça, vraiment, il y a eu peut-être maintenant un peu moins, mais parmi les petites et moyennes entreprises privées, une culture de la violence qui a été, dans les années 2000-2010, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais vraiment très impressionnant.
Alors que quand une entreprise non publique se met à grandir, il y a de plus en plus de règles qui interviennent, et à ce moment-là aussi une nécessité peut-être de se rapprocher du pouvoir, Françoise Lemoine.
Bien sûr, oui, je pense que ça dépend de la taille des entreprises, mais les petites entreprises sont souvent très en liaison, leur développement est lié à l'approbation, le soutien que peuvent avoir des autorités locales. Et plus elles grandissent, plus elles auront besoin de ce soutien, non seulement pour les crédits, mais aussi pour des histoires de terrain, d'investissement à faire, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis le début des années 2000, le Parti communiste plutôt a lancé une grande campagne pour recruter les entreprises privées, les dirigeants d'entreprises privées au sein du Parti communiste. Donc il y a une histoire de cooptation qui fait que c'est un moyen sans doute pour les entreprises privées de se protéger et d'avoir un accès direct aux instances dirigeantes. Mais il y a un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs privés qui sont membres du Parti communiste. Le dernier en date qui a fait son coming out, si je peux dire, c'est Jack Ma, qui est le PDG de Alibaba, et qui a dit « Oui, je fais partie du Parti communiste ». Alors, si lui fait partie du Parti communiste, vous imaginez le nombre d'entreprises privées qui tapent à la porte du Parti communiste pour être sûr de pouvoir développer ses affaires dans les meilleures conditions possibles.
Et de la
possibles.
Part du parti, ça témoigne d'une volonté de contrôle de plus en plus forte.
Oui, une cooptation et contrôle. Mmh. Mais quand il a inscrit son entreprise en bourse à New York, il a remis un dossier dans lequel il ne mentionnait pas son appartenance au Parti communiste. C'est un coming out, comme vous l'avez dit, assez restreint. Mais on dit qu'il y a à peu près 38% des chefs d'entreprise privés qui sont membres du parti, donc ça fait quand même une bonne quantité.
Et vous y voyez une volonté de contrôle et le fait qu'on veut peut-être empêcher que ces nouveaux bourgeois se transforment en un groupe social autonome susceptible de constituer une force d'opposition, très simplement, Marie-Claire Berger.
Oui, on veut les coopter, en faire des soutiens du régime. Et éviter qu'ils se transforment en bourgeoisie comme en Europe.
Vous parlez d'une bourgeoisie consentante plutôt qu'une bourgeoisie conquérante.
C'est cela, la bourgeoisie consentante.
Oui, je crois que les enquêtes qui ont été faites montrent que quand on interviewe des chefs d'entreprise privés ou de grandes entreprises, il n'y a pas de divergence profonde par rapport aux objectifs de l'État. Ce sont plus des partenaires et des alliés que des contestataires.
Mais il y a quand même un mot, ce que je voulais dire, ils sont quand même susceptibles d'être toujours renversés par le parti, parce que les pratiques que j'évoquais tout à l'heure, des pratiques qui ne sont pas illégales, mais qui ne sont pas non plus très légales, très souvent dans les entreprises privées, rendent ces entreprises très vulnérables. Si on veut les abattre, il suffit de regarder un tout petit peu, on trouvera sûrement des motifs de crimes économiques qui donneront un prétexte pour les abattre, et la durée de vie des grands entrepreneurs est très brève en général. Je leur dis leur durée de vie en tant que grands entrepreneurs. Il y en a peu qui arrivent à survivre longtemps parce que très souvent il y a un turnover des grandes entreprises qui est privé, qui est extrêmement important.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut dire peut-être pour amorcer une conclusion, c'est que le capital capitalisme à la chinoise, c'est peut-être la permanence d'une certaine subordination de l'économie aux politiques. L'économie de marché est finalement davantage un moyen au service de la modernisation et de la puissance politique du parti, Marie-Claire Berger.
Oui, on a longtemps pensé, en Occident en tout cas, que cet appel au marché était une espèce de transition qui devait forcément conduire vers l'adoption pleine et entière du marché d'une part et vers un régime démocratique de l'autre. Maintenant, je crois qu'on se rend compte que ce n'était pas une transition, c'était un nouveau modèle qui était en train de se construire, où l'économie de marché était mise au service, ici, d'un pouvoir dictatorial qui ne garde de socialiste, de communiste que le nom, qui est simplement le pouvoir d'un parti unique qui s'impose à la population, et à l'intérieur de ce parti, le pouvoir d'un homme qui s'impose de plus en plus à ce parti, qui est Xi Jinping.
Françoise Lemoine. C'est devenu un modèle concurrent, et notamment c'est ce qui explique peut-être aussi la guerre commerciale face aux États-Unis.
Oui, il y a certainement une concurrence entre cette nouvelle puissance qui émerge.
Et puis une concurrence de modèles aussi.
Et alors, c'est-à-dire on a souvent pensé qu'il y avait une convergence des différents modèles de capitalisme et que c'était une question de niveau de développement et qu'à partir d'un certain niveau de développement, tout le monde, tous les pays convergeaient vers un modèle de capitalisme libéral. Je crois que ça se révèle être une illusion et qu'il y a des modèles de capitalisme qui sont différents les uns des autres et le capitalisme chinois en est un qui jusqu'à présent en tout cas sur le plan économique a fait preuve de ses succès.
Et en même temps c'est un modèle et un pouvoir qui tient peut-être Marie-Claire Berger tant que justement la prospérité économique est là, on voit qu'il y a en ce moment un ralentissement de l'économie, est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à une évolution de ce modèle chinois ?
La légitimité du régime actuel ne repose absolument plus sur l'idéologie. Elle repose sur deux bases qui est d'une part la prospérité économique et l'élévation du niveau de vie de la population et d'autre part un nationalisme absolument exacerbé. Alors, il est évident que si la prospérité économique commence à décliner, cela peut effrayer les dirigeants et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils se montrent maintenant, depuis quelques mois, beaucoup moins agressifs à l'égard des États-Unis, beaucoup moins prêt à relever les défis dans la guerre économique, prêt à faire des concessions en parole au moins, qu'il ne l'était au départ.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andra pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que la date fatidique du Brexit se rapproche de jour en jour, vous avez choisi de revenir sur les négociations en cours entre Londres et Bruxelles.
Oui, une actualité qui occupe tous les esprits outre-Manche, tant les chances semblent minces pour les deux parties de trouver un accord. À moins d'un mois et demi de l'entrée en vigueur du Brexit, la Première Ministre a ainsi annoncé hier à la Chambre des communes qu'elle repoussait de 2 semaines le vote du texte au Parlement. Accusée par ses opposants de jouer la montre, Theresa May a expliqué qu'il lui fallait plus de temps pour trouver une alternative au fameux backstop, mécanisme imaginé par Bruxelles pour éviter de retracer une frontière entre les deux Irlandes. Ce dispositif permettrait ainsi à l'Irlande du Nord de rester alignée sur les normes européennes en attendant qu'un accord spécifique soit trouvé sur cette question. Une proposition tout à fait inacceptable pour le gouvernement britannique qui y voit une réunification de facto de l'Irlande et s'inquiète des idées que cela pourrait donner aux Irlandais alors que l'Écosse fait déjà état de ses velléités sécessionnistes.
Mais sur ce point, Arjuna, comme sur le reste du traité du divorce, les négociateurs européens sont restés intraitable.
Oui, il en allait de la crédibilité des institutions européennes vis-à-vis du Royaume-Uni, mais aussi et peut-être surtout vis-à-vis de ses membres. Il faut dire que le Brexit a été vu par beaucoup comme le signe d'une défiance grandissante des citoyens vis-à-vis de l'Union, et Bruxelles a eu peur d'une possible contagion à d'autres pays mettant à mal plus de 60 ans de construction commune. C'est ce qui permet de comprendre en réalité la réaction extrêmement ferme des 27 aux demandes de renégociation du Royaume-Uni. Il était nécessaire de maintenir un front commun pour montrer ce qu'il en coûte de quitter le bateau communautaire. Pas question de céder trop facilement aux exigences de Londres sous peine de faire apparaître le Brexit sous un jour acceptable, voire carrément attrayant pour un certain nombre d'observateurs au Royaume-Uni comme ailleurs.
Il faut dire qu'une partie de la classe politique anglaise commence à voir les possibilités qu'offrirait une sortie des traités européens.
Oui, au premier rang desquels le leader travailliste Jeremy Corbyn. Ce dernier n'a jamais fait mystère de son hostilité à l'encontre des institutions européennes qu'il juge intrinsèquement néolibérales et antisociales. Cette question ne fait pourtant pas l'unanimité dans son propre parti où nombre des membres continuent d'espérer changer les institutions et les politiques européennes de l'intérieur. Mais une partie croissante des militants travaillistes commence à se demander si le Brexit ne pourrait pas être en fin de compte une bénédiction, a blessing in disguise comme on dit outre-Manche, pour remettre en cause les politiques libérales menées au Royaume-Uni depuis l'ère Thatcher. Il faut dire qu'en dépit de sa neutralité théorique, l'Union européenne n'a cessé depuis 30 ans de mettre en œuvre des politiques de libéralisation des marchés et de prôner la concurrence libre et non faussée comme valeur cardinale de son intégration. Comme l'explique un article du Monde diplomatique consacré à cette question, les traités ne sanctionnent pas mécaniquement les politiques progressistes mais leur imposent de sérieuses limites.
On peut notamment penser aux politiques de développement régional qui ne sont autorisées que si elles ne contreviennent pas à cette idée de concurrence non faussée.
Exactement, alors que la France est secouée par une crise sociale fondée en partie sur le sentiment d'injustice et d'abandon territorial, on peut s'interroger sur le rôle des institutions européennes qui se sont échinées à fixer une montagne de règles pour empêcher que les États ne sombrent dans les affres du favoritisme ou pire du protectionnisme économique. Une urgence territoriale qui se pose également au Royaume-Uni, alors que la sociologie rejoint sensiblement celle des gilets jaunes, les élites et classes moyennes urbaines ayant voté pour rester, les classes populaires des zones périurbaines et rurales s'étant largement prononcées pour sortir de l'Union. Le leader travailliste a donc estimé que cette question ne pourrait être tranchée par un nouveau référendum sur le Brexit, mais par des élections générales. Il a ainsi expliqué qu'il ne s'agissait plus seulement de savoir si le Royaume restait ou non dans l'Union, mais bien de décider de ses politiques pour l'avenir, in or out du néolibéralisme donc.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Marie-Claire Bergère et Françoise Lemoine de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos livres respectifs. Marie-Claire Bergère, Chine, le nouveau capitalisme d'État chez Fayard, et Françoise Lemoine, l'économie de la Chine à la découverte. On se retrouve demain pour parler du monde selon Xi Jinping et des nouvelles voies de la puissance. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.